La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Première, je voudrais dire pardon à nos supporters.
Je demande pardon à nos supporters pour ces résultats.
Je dis pardon à tous les supporters.
Je dois juste dire à nos supporters excuse.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After sur RMC, là en direct sur la chaîne YouTube de l'After et en direct sur RMC. Vous le savez, l'After, premier podcast de France, l'After, votre espace de liberté à vous les supporters. On vous attend au 32-16, Florent Gautreau est avec moi ce soir, salut Florent.
Salut.
Et Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
L'événement ce soir dans l'After, les gars, une nouvelle fois, c'est la France du foot qui est toujours en banqueroute virtuelle. Les clubs pro n'ont toujours aucune possibilité de monter leur budget. Ils ont même reçu des consignes de la DNCG pour être prudents. On va détailler ça dans quelques instants. On aura avec nous Pierre Maes, spécialiste de la question, dans quelques secondes. On vous attend au 32-16 pour participer, bien sûr, à l'After Foot Presse dossier. Parce que plus les jours passent et moins on a de nouvelles. Et donc forcément plus l'inquiétude grande. Daniel fera ensuite le point sur la recherche de coach à Marseille avec des infos importantes. Restez bien à l'écoute. Nous passerons également en revue les infos liées à la finale de la Coupe de France, 48 heures avant le match PSG-Lyon à Lille. Et puis après 23 heures, Saint-Etienne au programme. Le projet de rachat est-il le bon? Notre ami Jos Randall sera avec nous, célèbre influenceur stéphanois. Il nous dira un peu quel est le degré de confiance à Saint-Etienne. Et puis, avant minuit, nous débattrons également du rôle des recruteurs à l'occasion de la sortie du livre d'Enzo Djebali, lui-même recruteur pour plusieurs clubs pro. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. On a également la liste de l'Italie pour l'Euro, la liste du Portugal pour l'Euro. On partagera ça ensemble tout à l'heure. Direct Studio est également disponible. Voilà le programme de l'After d'ici minuit. Mais Florent et Daniel, j'aimerais qu'on accueille parmi nous ce soir une voix désormais presque historique de l'After. Un auditeur fidèle qu'on a souvent avec nous et qui est venu nous voir en studio ce soir, c'est Roger. Bonsoir.
Bonsoir.
On est ravis de t'accueillir avec nous.
Merci. Roger, tu veux pas, j'ai l'impression que tu es en train de faire le timide, alors que quand tu es au téléphone, tu n'es vraiment pas timide.
Non, pas du tout, surtout que je vois Daniel pour la première fois et que j'ai hâte de lui faire sa fête. Parce que pendant 3 mois, j'étais aux Antilles. Oh là là, Daniel.
Et comment ça, pendant 3 mois? Et donc, tu pouvais écouter de
Oui, j'ai écouté.
Dis-nous, Roger.
Ah, tu pouvais pas appeler.
Fais-nous la synthèse, Roger.
Attends, depuis la Martinique, on peut pas appeler le 32-16?
Non.
Eh non, on peut non, pas.
Eh, je ne savais pas ça.
Eh non, alors, malheureusement.
Fais-nous la synthèse.
De l'étranger, je savais, mais pas
résumé,
depuis...
Sans spoiler tout le... En un mot, en une phrase. En une phrase, t'étais d'accord avec moi, quoi.
Ah ben, bien sûr, Florent. Surtout que toi, t'es toujours... T'as le mot juste.
Ah ouais, là pour le coup, il était vraiment mesuré. Hein. Là, on peut dire qu'on a eu quelqu'un de très mesuré, n'est-ce pas? Pour la première fois de sa vie, il a déraillé.
Pour une fois,
c'était le TGV à pleine vitesse qui a pris un pot de mots.
Pour une fois, le René a débordé. On peut lui permettre ça?
Il peut, s'il veut. Mais ouais. Moi, ce qui m'attriste, c'est que c'est le temps qui fera son office. En sa défaveur,
Daniel, on sait bien que tu es né le 18 mai, mais bon.
Non, pas 18 mai, avril.
18 avril.
Eh oui.
Mais bon.
2 jours après Jean-Michel Bazir.
Oui, et puis bon.
la référence.
18 avril, ça donne pas. On dit que c'est la Saint-Parfait, mais bon.
Eh oui.
Est-ce que tu es parfait?
Roger, aux Antilles, t'écoutais comment? Sur la fameuse radio Maxi qui reprend l'After ou en podcast?
Non, sous mon portable, sur Internet.
Très bien.
Ouais.
Bon, ça me permet de saluer tous les auditeurs aux Antilles qui nous écoutent.
Ouais.
Exactement.
On est écouté aux Antilles.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Mmh. Ouais. Il y a donc Maxi, qui est une radio qui reprend les programmes d'RMC en Martinique et en Guadeloupe.
Oui.
Pourquoi tu l'avais jamais dit ça? Je savais pas.
Bah bien sûr.
Bah,
on a jamais l'occasion d'en parler, mais moi je connais des gens de chez Maxi, je les salue.
Ça que tu connaisses des gens à Guadeloupe, je le sais.
Voilà.
Ça je n'en doute pas, mais je ne savais pas qu'on était repris sur cette radio.
Exactement.
Maxi.
Et on les remercie.
Le patron n'est pas Gérard Lopez.
Non. A priori non. T'as eu l'occasion de croiser Kevin Diaz qui sortait de, de Génération After. Quand il a su que t'étais là, il a tremblé un peu, Kevin. Hein.
Il a eu peur un peu.
Ouais. Professeur. Bon.
Professeur Diaz.
Bon, mais j'ai l'impression que le professeur comme Walid, ils veulent aller dans les roues de Daniel, mais je sais pas s'ils peuvent vraiment.
Ils ont du talent.
Oui, ils ont du talent, oui. Ils sont là, Daniel, fais attention.
Mais l'important, c'est les coachs pour les faire progresser.
Attention, au 18 avril, tu seras peut-être plus parfait. Parce que moi, le 18 avril, ça m'a marqué quand tu as dit je suis né le 18 avril. Parce que ma sœur.
Non, moi, je suis né le 19, mais c'est dans la nuit de la Saint-Parfait. On a travaillé pendant la nuit de la Saint-Parfait.
Parce que j'ai une de mes sœurs qui est née le 18 avril. Je la reconnais bien en toi. Et pourtant,
ça doit être sympa les dîners de famille.
Ah oui, mais en plus, on s'entend très bien.
Moi, j'encourage Kevin, Walid. Et tu sais, dans la vie, ce sont les faibles qui n'aiment pas s'entourer d'efforts. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Je n'ai pas de problème avec ça, je ne veux que des forts avec moi.
Et il y a quelque chose que tu dis.
Moi, je veux que des gens talentueux et que des gens forts à côté de moi. Tous ceux qui sont dans l'équipe, je veux qu'ils soient les plus forts possibles.
Oh, je suis d'accord, mais il y a une chose que tu dis. Tu dis qu'on dit que tu ne laisses pas parler les gens. Mais en même temps, un jour que tu as dit, tu écoutes beaucoup.
Oui, la journée. J'ai passé ma journée d'ailleurs à écouter beaucoup de gens aujourd'hui. Je vais en parler tout à l'heure.
Écoute beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup. Et j'écoute beaucoup Daniel. Je podcast beaucoup Daniel pour reprendre beaucoup de mensonges de Daniel. De contre-vérité de Daniel.
J'espère que tu es venu avec ta liste, hein, Roger.
Oui.
Très bien.
Bon, bah écoute, Roger, reste avec nous. On va parler de tous les sujets du soir. Tu fais comme chez toi. T'interviens, bien sûr. On va démarrer par, toujours cette même situation. Le foot français qui attend. Et pour l'instant, les droits télé ne tombent pas. Je vais vous donner l'information du jour, qui est quand même assez folle, hein. Finalement, ça fait quelques jours qu'on se dit, mais comment vont bien pouvoir faire les clubs pour aller devant la DNCG présenter leur budget l'année prochaine? Dans la mesure où ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, ils ne savent pas quelle part de droits télé ils vont récupérer, ils ne savent pas combien ils vont récupérer. Bref, c'est le grand flou. Je rappelle qu'il y a plusieurs clubs pro, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, qui dépendent à plus de 70% des droits de télé dans leur budget, hein. Donc c'est quand même considérable. C'est-à-dire que c'est le flou le plus total. Alors sachez qu'aujourd'hui, le patron de la DNCG, Monsieur Micheler, a envoyé une lettre au club en leur disant, en substance, message très clair, prudence. Prudence concernant les budgets prévisionnels, l'incertitude sur les montants des futurs droits est l'élément central. Et donc, Micheler suggère au club d'envisager un scénario de maintien des droits globaux. Voilà.
Alors, la vérité, c'est
que... Voilà, c'est ce que dit Micheler. Prudence absolue à tout le monde. J'ajoute, Daniel, parce qu'il faut être complet. Il dit, bien évidemment, les budgets pourront être renégociés, revus devant la DNCG. Donc, les gars, prudence, puis on ne sait jamais si on a une bonne surprise. Allez, vous reviendrez nous voir. Et puis, ça passera, quoi. C'est ce que je comprends.
C'est à peu près ça. Alors, paradoxalement... puisque tu le répètes très régulièrement, la situation est critique parce que ça n'est pas encore tombé. Mais paradoxalement, la majorité des présidents n'est pas inquiète. Ils disent que de toute façon...
Est-ce qu'ils sont complètement inconscients non. ou est-ce qu'ils ont les infos qu'on n'a pas ?
Ils font tellement confiance, les yeux fermés, à l'Orléanais, qu'ils se disent que de toute façon, tout est nickel et que ça rentrera dans l'ordre. Néanmoins, comme tu l'as dit en relayant le message de Micheler, il y a une gestion, grosso modo, sur un maintien de l'existant. Et comme tu dis, le reste, ce sera éventuellement un bonus, une surprise, mais ils raisonnent tous sur l'existant. Et le fait que ce soit pas encore tombé alors qu'on est fin mai, ça inquiète. De toute façon, il faut savoir que les présidents ne sont jamais inquiets. Qu'ils ont l'Orléanais comme paravent.
En dehors de ça, c'est pas très compliqué aujourd'hui. Sauf énorme surprise, de tabler, puisqu'on a évoqué ces chiffres-là dans notre dernière émission qui a parlé des droits, admettons sur 700 millions d'euros, et éventuellement même faire un peu moins, comme quand tu fais un budget prévisionnel, en mettant, je sais pas, sur du 600 et en faisant les répartitions qui vont bien. Oui, sauf s'il n'y a pas du tout d'accord. Là, oui, on est OK, c'est la banqueroute totale. Mais évidemment, dans un budget, c'est pas très compliqué de faire ça, puisque dans un prévis, tu pars toujours sur des hypothèses basses. Donc, ça me paraît pas ultra dangereux.
Ça a toujours été le cas de certains clubs qui, certains, misaient parfois sur un budget Coupe d'Europe, alors qu'on savait pertinemment
à l'avance que c'était dur à atteindre. Mais là, aujourd'hui, si tu veux, contrairement même à l'époque Kyo, tu sais, quand on nous vendait la chaîne qui allait jamais se casser la gueule et machin, là, tu te dis plutôt prudence, effectivement, maintenant, parce que t'es plus sur le milliard, t'es plus sur 700. Donc, évidemment, ils vont pas aller budgéter un truc qui est lié à un éventuel milliard. Je veux dire, on n'est pas dans ce délire-là non plus. Donc, ça me paraît pas complètement fou.
Avançons parce que notre invité nous attend, Pierre Maes. Vous savez que le Sénat, en ce moment, auditionne quelques acteurs importants des droits de télé, des spécialistes, d'anciens présidents. Boucher y est passé, notamment. Roussier y est passé. Ils attendent les sénateurs avec grande impatience, Vincent Labrune.
Et alors,
comme une sorte de bouquet final de leurs auditions. Donc, c'est une commission du Sénat sur la financiarisation du football. Et Pierre Maes, spécialiste des droits télé, qui est déjà venu plusieurs fois dans l'After, qui a écrit d'ailleurs un bouquin de référence en la matière, est avec nous ce soir. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Bonsoir. Oh là, t'es dans un endroit qui résonne. J'espère que la communication sera un peu meilleure. Juste avant, Pierre, de te laisser t'exprimer, je complète l'introduction de Gilbert. Donc, devant cette commission sont passés beaucoup de gens qui interviennent très régulièrement dans l'After. Pierre Rondeau y est allé, Christophe Boucher, tu l'as dit, Pierre Maes. Il faut préciser que la commission emmenée par Michel Savin a pas... enfin. C'est pas qu'ils veulent pas faire de cadeaux, mais en tout cas, ils sont hyper pointilleux. Ils veulent vraiment tirer cette affaire au clair. Et pour tout dire, ils sont convaincus qu'il y a un truc pas clair.
Là, tu parles du deal avec CVC. Hein.
CVC. Mais c'est principalement de ça dont on parle. C'est ça qui fait le cœur de l'étude de cette commission.
Parce qu'il faut toujours être très pédagogue entre les droits télé négociés actuellement avec beIN et le deal avec CVC. Bah, c'est deux choses totalement différentes.
Il y a une conséquence de l'un sur l'autre.
Oui,
CVC va croquer quand même dessus. Donc, Pierre Maes s'est passé, c'était aujourd'hui, Pierre, que tu es passé.
Il y a quelques jours.
Franchement, c'est passionnant à regarder. À entendre, si le sujet vous intéresse, vous
tout
pouvez
est dispo
retrouver
sur le
cette
site
audition.
Du Sénat,
je répète, Rondeau, Boucher a été excellent, Pierre également aujourd'hui. Tous sont allés. On n'est pas en train de parler de patrons de bistrot quand on parle de Pierre Maes, de Rondeau, de Boucher. Soit ce sont des économistes, soit ce sont des gens qui connaissent réellement le dossier. Tous ont dit devant la commission à quel point ils étaient dubitatifs, sceptiques quant à ce deal, qu'ils se demandaient. Vous savez. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui ce qui est passé, Mick Keller. Là, on a eu une chose très étonnante.
Patron de la DNCG.
C'est que Mick Keller, patron de la DNCG, lui, il est arrivé en disant tout est formidable. Bah, de là à dire, alors, je vais pas faire le complotiste, mais de là à dire qu'il est téléguidé, voire radioguidé par l'Orléanais, le président de la LFP, franchement, c'était tellement gros. Quand j'entends une flopée de spécialistes venir dire qu'il y a un problème, que quand même, il faut s'interroger sur un, et hop, le patron de la DNCG, il arrive, tout est beau, tout est formidable. Alors, moi, je veux bien, déjà, l'avis de Pierre, ne serait-ce que sur ce point, pour démarrer, si tu veux bien.
Comme on était en train de rétablir une bonne liaison avec Pierre, je suis pas sûr qu'il ait entendu l'intégralité.
T'as entendu ce que je disais sur l'audition de Mick Keller, Pierre?
J'étais tout ouïe, j'ai tout entendu, ouais.
Ah, alors?
Bah, écoute, c'est pas la première fois que Mick Keller chante avec la brune, J'ai aussi vu dans son audition qu'il a dit que l'argent de CVC était absolument nécessaire, sinon il y aurait eu des faillites de clubs pro.
Il a été repris par les membres de la commission quand il a dit ça.
Ah, ça j'ai pas vu. Oui, ok. Ça me paraît bien. Alors pour reprendre ce que tu disais sur le travail de la commission, j'ai moi-même été effectivement très favorablement impressionné. Comme tu dis, ils ont l'air de vraiment vouloir connaître tout, non seulement d'ailleurs sur le deal CVC-LFP, mais ils reviennent sur Mediapro, ils reviennent aussi sur l'attribution des droits Amazon et ce genre de choses. Ce qu'on sent aussi, c'est que... vous vous en souvenez sûrement, ils ont auditionné la Brune... qui est venu leur vendre la société commerciale parce qu'il fallait changer la loi. Mmh. Et aujourd'hui, ils se demandent s'ils n'ont pas été un peu vite en acceptant finalement aussi facilement de soutenir le changement de loi.
Le changement de loi, on l'a pas beaucoup dit, Pierre, mais c'est quand même également, ce changement de loi a été fait avec le soutien du gouvernement.
Tout à fait.
Oui. La brune Macron, on en parlait, c'est quasiment une sorte de cadeau du gouvernement qui croyait au projet de la brune.
Oui, tout à fait. Alors pour la petite histoire, c'est assez amusant que cette loi s'appelle la loi sur la démocratisation du sport, mm-hmm. alors que je l'ai relevé dans mon audition, le projet de la société commerciale est tout à fait élitiste et brise la solidarité entre les clubs pro français dans une proportion jamais vue. Il n'y a pas aucun autre pays en Europe où les droits internationaux sont partagés entre les seuls participants en Coupe d'Europe.
Pierre Maes,
c'est très important de le souligner,
sur la situation actuelle en France là, concernant les droits, est-ce que de ton œil de spécialiste, tu te dis bon, évidemment Bein va y aller et bon, ce n'est qu'une question de jour avant l'annonce officielle, ou est-ce que tu te dis quand même méfiance, plus les jours passent et plus on peut s'inquiéter? Quel est ton point de vue?
Mon point de vue, je peux le résumer en une phrase, c'est celle que j'ai dite au Sénat d'ailleurs. Si Bein voulait vraiment les droits, le deal serait déjà signé depuis longtemps. Voilà, ça c'est clair. Je pense qu'il y a matière à s'inquiéter, clairement.
Oui, mais ils peuvent pas ne pas y aller, Pierre, parce que de toute façon, c'est dans la même poche que le PSG. Donc, ils ont tout intérêt à ce que le PSG soit dans un championnat compétitif.
Oui, mais enfin, bon, je suis pas sûr. Enfin, ce qu'on voit d'abord, on va séparer les choses. Ce qu'on voit au niveau de Bein, pas seulement en France, c'est dans tous les pays où Bein est présent, ça fait 4 ans qui serrent la vis, qui font des économies. Donc, on le voit également sur les droits de l'euro. Voir aujourd'hui Bein investir massivement dans la Ligue 1 serait contraire à tout ce qu'on voit sur Bein depuis 4 ans au niveau mondial.
Mais c'est pour ça qu'en fait, ils ne veulent pas investir massivement et que les discussions portent d'abord sur la somme et surtout sur des promesses concernant la répartition pour que une plus grosse part aille au PSG, puisque la Ligue 1, ils s'en foutent et ils ne pensent qu'en termes de compétitivité européenne, d'où le projet élitiste dont tu parlais, avec une répartition qui ira en faveur des clubs européens et les autres, ils mangeront du pain de mie, quoi, ou du pain noir.
Oui, j'ai entendu ça aussi, que Bein voulait une répartition au profit du PSG. Mais je répète, si Bein, dans son activité de chaîne à péage en France...
On va rétablir une liaison, parce que là, ça coupe une nouvelle fois avec Pierre, malheureusement. Oui, Pierre parlait des droits de l'euro. On est là, l'euro c'est encore plus tôt que la reprise du championnat, hein. L'euro c'est dans 15 jours.
Il y a 24 matchs, c'est ça?
Et pour l'instant, il n'y a qu'une partie des matchs qu'on est sûr de voir
la moitié.
France.
La moitié sur M6 et TF1.
Oui, alors justement, j'ai le détail, c'est intéressant, parce que bon, nous on est tous des fans de foot, on veut voir un peu tous les matchs, il n'y a pas de raison d'être privé des matchs de la Roumanie ou de la Géorgie de Willy Sagnol, voyez-vous. Et ben, en fait, ce qui se passe sur l'euro, c'est qu'effectivement les matchs sont répartis entre M6 et TF1 et que le reste devrait normalement être récupéré par Bein. Bein a fait une offre à l'UEFA de 15 millions. Et l'UEFA, limite, ils ont rigolé, parce qu'en fait, ils en veulent un minimum 30, l'UEFA. Et l'UEFA, c'est pas des philanthropes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur argent, ils vont dire, excusez-nous, mais vous retransmettez pas, c'est tout. Donc aujourd'hui, il y a une vraie possibilité qu'en France, ce qui serait du jamais vu sur les récentes compétitions, il y ait plein de matchs de cet euro. Alors évidemment, c'est pas les principaux, c'est pas l'équipe de France, c'est pas les grosses affiches, qu'il y ait presque la moitié des matchs qu'on ne voit pas en France.
Mais il y a une tension déjà à la base. C'est pour ça que tout le deal global est une affaire de dupe, parce que il y a une tension globale sur les prix, même pour les chaînes. S'il n'y avait pas ce lien entre Bein et le PSG, là, pour le coup, la banqueroute dont tu parles, aujourd'hui, elle serait réelle, parce que de toute façon, on sait, en gros, diffuser du foot, y compris pour les grosses chaînes TF1 et M6, ça n'est pas rentable. c'est pas possible de rentabiliser. Donc a fortiori si tu te prends un championnat comme la Ligue 1 sur 38 journées. Donc aujourd'hui, la seule façon pendant des années que le foot s'en sorte, c'est d'inventer parfois des concurrents, tu sais, pour en faire TPS, Orange, pour arriver à faire monter la note. Et là, c'est, on va dire, un conflit d'intérêts entre guillemets entre le PSG et Bein. C'est ça qui peut laisser optimiste sur le fait que ça se fasse. Mais Bein ne veut pas non plus, parce que c'est aussi toujours le cas du côté de Bein, ne veut pas non plus être le cochon de payant qui va mettre ce que demande comme enfin ce que veulent les présidents de club. Donc en fait, eux, ils négocient.
Alors, on a retrouvé Pierre. Est-ce qu'on s'entend bien?
Oui, j'espère.
Oui, ça a l'air mieux. Sur les droits de l'euro, là, pareil, le fait qu'on soit à 3 semaines et que rien ne soit dealé, tu as la même inquiétude que pour la Ligue 1?
De nouveau, là, c'est tout à fait dans le sens de ce que j'expliquais. On voit que Bein négocie très dur. Je lis que Bein payait pour ses droits un montant proche de 40 millions d'euros, ce qui est quand même une somme folle pour des matchs de second rang, de second choix. Les voir aujourd'hui dire qu'ils ne payent entre guillemets que 15, personnellement, moi je trouve que 15 c'est déjà une belle somme.
Bon, et si l'UEFA veut 30, bon, après il peut y avoir des négos de gré à gré toujours, hein, qui font.
Oui, mais comme disait, et je ne connais pas
Florent.
Ton prénom, Florent, très justement, il n'y a plus de concurrence. Ici, Bein est tout seul. Et donc, l'UEFA, il va devoir faire comme LFP Média, constater qu'il n'y a pas de concurrence. Et quand il n'y a pas de concurrence, c'est le seul acheteur qui décide le prix.
Pierre, de ton œil d'expert, tu as travaillé sur les marchés dans différents pays, tu connais donc les acteurs. Qu'est-ce que tu penses de ce que fait Vincent Labrune, globalement, de l'action, de l'œuvre du patron de la Ligue jusque-là?
C'est incompréhensible, c'est pas lisible. Si on s'en tient à la gestion des droits TV, on pourrait dire quand même que c'est catastrophique. De l'attribution des droits Amazon au tiers du prix de ce que payait, enfin de ce qu'a failli payer Mediapro.
De la rupture avec Canal.
Là, exactement. Faut pas oublier quand même qu'à l'époque, Labrune a été engagé, enfin, il était en concurrence avec Deniso, qui était clairement là pour ça, et Labrune était engagé aussi pour ça, pour renouer les liens avec Canal. Ça a été une catastrophe. Après 2 mois, c'était de nouveau la guerre. Donc, comme tu le dis très justement, Daniel, c'est aussi un point, à mettre à son passif. Ce qu'on voit aujourd'hui sur, le processus, pour les droits 24-29, c'est tout à fait catastrophique. D'avoir claironné qu'il voulait 1 milliard me paraît pas être la chose la plus intelligente. Avoir fait cet appel d'offres aussi tard est une grave erreur. Et avoir mis des mises à prix au lieu des prix de réserve est encore une grave erreur.
Ah bah dis donc, on me trouve parfois sévère avec lui.
Et dernière question, Pierre. Selon les versions, en fait, il y a 2 versions concernant la dépendance aujourd'hui du foot français à Bein Sport, donc au Qatar. Il y a ceux qui disent, bah, une nouvelle fois, merci le Qatar qui sauve le foot français. Et puis il y a ceux qui disent, mais soyons clairs, le Qatar tient le football français par les. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est eux qui, en gros, tiennent aujourd'hui le portefeuille pour tout le monde. Évidemment qu'être dépendant d'un acteur comme ça, c'est la pire catastrophe pour l'économie du football français, non?
Quand tu t'es brouillé avec Canal, tu as laissé quelque part le football dans les mains de Bein. Et aujourd'hui, étant donné que c'est le seul acteur, tu es obligé de te mettre à genoux devant lui et de lui dire mets l'oseille, sinon on va mourir. Donc en fait, oui, effectivement, ils ont le football français dans les mains.
Mais comme le dit Pierre, c'est vrai aussi que comme ils sont seuls, c'est comme une situation nouvelle.
Exactement.
Et qu'effectivement, c'est eux qui vont décider le prix. Et
oui, mais
c'est normal.
Parce qu'il a viré les autres.
Bien sûr. Mais juste un point là-dessus, d'ailleurs, avant de redonner la parole à Pierre, c'est vrai que. Ils sont seuls et le Qatar, alors, bizarrement, fait parfois n'importe quoi, et notamment en termes de football, en termes de gestion sportive. Mais en revanche, dans la gestion de Bein et dès le départ, et Billetterie avait raconté ça très très bien, ils ne font pas n'importe quoi en termes de financiers. C'est aussi à savoir. Il ne faut pas imaginer que c'est open bar. Non, pas du tout. Donc c'est en ça que, étant acteur unique maintenant, et c'est sans doute pour ça, comme l'a dit Pierre en préambule, c'est sans doute pour ça que ça ne se fait pas, que ça ne se dévoile pas aussi vite que prévu.
Pierre, je te laisse répondre.
Oui, Bein est seul, mais attention, Bein a un contrat de distribution exclusive avec Canal, et donc, comme tout le monde le sait, Bein ne s'engagera jamais dans un deal avec la Ligue 1 si, derrière, Canal+ ne les rétribue pas convenablement dans le cadre de ce contrat de distribution.
Absolument, donc, avec peut-être un match sur Canal au final.
Oui, peut-être. Si Canal, ce serait assez logique qu'il essaye de garder un ou deux matchs sur son antenne, puisque aujourd'hui, quand même, Canal a deux matchs plutôt bien sur son antenne et on les voit difficilement priver les abonnés de Canal de deux belles affiches. Mais ce que je veux dire, c'est que Bein est seul, mais n'est pas décisionnaire. C'est Canal, en fait, qui est décisionnaire. Et donc, effectivement, cette grave erreur de s'être mis Canal encore plus à dos, ben oui, quand le marché est contrôlé par un seul acteur, et c'est Canal+. Point.
Merci beaucoup Pierre Maes, spécialiste des droits de télé, pour cet
éclairage
toujours intéressant. Et puis donc pour le
Merci.
Concernant l'audition au Sénat, vous allez sur le site du Sénat, vous avez toutes les audiences en ligne. Effectivement, si le sujet vous passionne, vous allez vous régaler.
Je peux dire.
Roger.
Oui. Vous pensez que Canal est blanc dans tout ça? Je trouve que vous, Daniel Lilem, l'Orléanais, il détruit. Je suis d'accord, mais Canal.
Canal défend ses intérêts. Bah,
mais voilà. Oui.
Canal, qu'est-ce que tu reproches à Canal dans le business?
Moi, Canal, je les ai jamais aimés parce que j'ai eu des problèmes avec eux.
ça n'a rien à voir.
Ah oui, mais
ils t'ont arnaqué sur l'abo.
Canal a été plusieurs fois au tribunal avec la Ligue pour. Mais quand c'était le Covid, Canal, quand on a essayé de négocier avec eux, moi personnellement. Ils m'ont dit niette.
Non, mais Roger,
le commerce d'en haut, c'est comme le commerce d'en bas. Canal pleure pour ses sous.
Non, mais d'accord. Mais
moi, je ne suis pas contre l'Orléanais quand il se bat contre Canal.
Mais non, parce que quand tu fais du business, tu ne peux pas te brouiller avec un acteur aussi important.
Roger, c'est bon sens
dans la merde derrière.
Ben oui. T'as raison, pendant le Covid, il fallait renégocier l'abonnement. Ils ont dit non.
Cela dit, il n'est pas exclu, en dehors de tous les aspects financiers et stratégiques, que l'aspect humain soit entré en jeu à un moment donné entre la Brune et Saad.
Évidemment. Ouais. Ouais. On continue le débat dans un instant. On aura Patrick au 32-16 qui est passionné par ces questions lui aussi. Et ensuite, on passera à l'actu marseillaise, messieurs, dames, des infos sur l'OM à suivre dans l'after. À tout de suite.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à Pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de trois pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeu et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h28, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, on accueille Roger ce soir, auditeur historique de l'after qui est passé nous voir en studio, que nous avons
des problèmes avec son décodeur.
Oui, et donc si vous bossez à Canal,
retrouvez
le numéro d'abonné de Roger parce qu'il y a un petit souci là.
Non, je suis plus Canal.
Ah bon?
Non, j'étais aux Antilles, ouais. Et j'ai demandé à Canal. Que je ne savais pas quand est-ce que je revenais. Il me restait 3 mois d'abonnement que je voulais résilier. Et je, avec la photocopie de mon billet, ils m'ont dit pas question. J'ai envoyé 2 recommandés, ils m'ont dit pas question. Et ils m'ont envoyé les huissiers ou je sais pas quoi.
Ah, carrément.
Oui, eh ben, j'ai fait la photocopie de mes recommandés, tout. Et tout a été annulé.
Bravo,
j'ai pas payé les 3 mois. Alors, Canal, très gentil pour battre ses intérêts, mais mes intérêts aussi.
On aurait dû te mettre face à Saada, peut-être que.
Patrick est avec nous au 32-16. Patrick, qui pour intervenir sur ces questions de droit, qui est un passionné des droits. On a déjà eu Patrick au 32-16 avec nous là-dessus. Salut Patrick.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut Flo, salut Roger. Hello. Merci de m'accueillir à nouveau. Tout d'abord, juste pour rebondir, Gilbert, sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'audition de Pierre Maes, ils ont super bouquin, La Ruine du foot français, achetez-le, c'est vachement bien.
Oui, c'est vrai.
Sur toutes les auditions, même celles de Jean-Michel Roussier, sont accessibles sur la chaîne YouTube du Sénat. Donc c'est hyper pratique de trouver ça sur
Excellente l'audition de Roussier, n'est-ce pas?
à l'audition de Roussy était géniale. Très franchement, autant je en tant que téléspectateur, il a géré des chaînes de télévision et ça s'est mal passé.
Ça mais c'est vrai. Je l'ai dit aussi, mais l'audition n'en demeure pas moins passionnante.
Oui, et sa combativité vis-à-vis de la Ligue et face au sénateur qui maîtrise très bien le sujet était vraiment intéressante et chapeau à lui. Alors le titre de votre débat c'était le football français avec les droits télé au bord de la banqueroute, mais finalement c'est pour moi la conséquence de plusieurs choses, c'est-à-dire à la fois le fait que sur les 5 dernières saisons, incluant la nouvelle saison à venir, on se retrouve avec 5 combinaisons différentes de diffuseurs. On a eu en 2019-2020 Canal Bein, après on a eu Canal Media Pro, puis Canal tout seul, puis pendant 3 saisons Amazon et Canal, et a priori si on suit les informations que vous reliez, ça serait Bein avec un zeste de Canal. Mmh. Donc ça peut amener forcément une situation qui se dégrade et qui est négative. Deuxième point que je voulais évoquer, c'était finalement... comme je l'ai dit à Max, Jean-Pierre, Laurent Valdemar et les autres. Jean-Pierre Caillot qui se pointe chez Jérôme Rotten pour nous dire que tous ceux qui suivent le championnat italien, espagnol, anglais, allemand sont finalement des bobos et que la Ligue 1, elle vaut rien, que la Ligue 1 vaut quelque chose par rapport à ces championnats, mais c'est à mourir de rire.
Caillot, en même temps, c'est le porte-serviette de la Brune. T'attendais qu'il dise quoi?
Bah, c'est effectivement, c'est un laquais, mais moi je suis toujours surpris, Daniel, d'entendre des bêtises pareilles. J'ai eu le plaisir de
regarder. Ah, mais si tu savais ce qu'on entend dans la bouche des présidents, je pense qu'en fait, c'est même difficile à imaginer. Si vous aviez l'opportunité de parler de présidente, comme ils parlent de la Brune et comme ils sont dans une forme d'adoration, à croire que c'est l'Eldorado promis qui va arriver, et quand tu sais en plus à quel point. Finalement, ce dossier leur échappe parce qu'ils ne savent pas. Et pire, un type comme Caillot, il est convaincu, à part d'être un laquais, il est également convaincu que la Ligue 1, c'est le meilleur de tous les championnats. Tu me diras que pour vendre un produit, il vaut mieux être, quand tu le détiens, il vaut mieux être persuadé que c'est formidable. Mais ne pas avoir de recul, ne pas avoir la lucidité pour savoir ce que tu fais, ce que tu vaux, comment tu gères et tout remettre dans les mains de quelqu'un qui va gérer pour toi. Moi, c'est un truc qui ça m'a toujours fasciné, ce truc.
Ah, mais Daniel, c'est surréaliste. Quand t'entends Laurent Nicolin, ou quand tu lis Laurent Nicolin dans les colonnes du JDD, qui a totalement confiance en Vincent Labrune pour nous dire que les 700 millions...
Ah là, t'as cité les deux porte-serviettes, là, donc...
Je rappelle d'ailleurs, Patrick, que ces mêmes présidents, quand tout le monde médiatique, nous compris, alertions sur Mediapro, en disant attention, les infrastructures, les paiements et tout, tous ces présidents-là qui ont discuté, déjà à l'époque, disaient, enfin, il n'y a pas de problème. Tout ça, ça va arriver. Donc ça ne date pas de maintenant, hein, ce que je veux dire, cet aveuglement. Il date déjà de l'arrivée de Mediapro.
Tout à fait. Je me rappelle de débats avec Daniel, Walid Acharchour n'était pas encore là à l'époque, mais je ne sais plus qui était autour de la table, mais on pressentait qu'il y avait un problème avec Mediapro. Et c'est surréaliste de voir des chefs d'entreprise tomber dans ce piège-là et nous répéter les mêmes salades. Et pour finir sur ce point, j'ajoute Valdemar Quitta, qui un jour sur la chaîne L'Équipe, je crois, a quand même sorti que 1 milliard d'euros pour le championnat de France, c'était parfaitement possible. C'est surréaliste.
Et oui, alors là, Quitta, c'est toujours le pompon.
Ah oui, non,
quand tu creuses au plus profond, tu penses que tu trouveras plus rien, et là tu tombes sur Quitta, généralement.
Ah mais il nous fera toujours plaisir, Quitta, clairement. Et le dernier point que je voulais
en droit TV.
Et le dernier point que je voulais évoquer, c'était finalement, bah, évidemment que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et il suffit de s'intéresser un petit peu au droit TV hors football pour se rendre compte que Canal a fait all-in avec le Top 14 et la Pro D2 hier soir.
Oui, ils ont signé jusqu'en 2032 avec le rugby, là.
Exactement. Et avec, en moyenne, je crois, 10 à 15% de plus par rapport au contrat actuel. Il suffit de voir les résultats des clubs européens en Coupe d'Europe. Moi, dimanche soir, j'ai plaisir à regarder un match entre l'Atalanta et la S-Roma. Je me régale. J'ai pas envie de me taper un match de Ligue 1 moisi dimanche à 21h. Donc la banqueroute, elle est financière, elle est structurelle, elle est administrative, elle est sportive. Et très franchement, quand j'entends 700 millions que pourrait verser Bein Sport, j'y crois pas un instant. Et je crois pas un instant que le duo Vincent Bolloré-Maxime Sarada craque et donne beaucoup plus d'argent sur le contrat de distribution exclusif qu'ils ont avec Bein qui est à 250 millions. Ça me paraît surréaliste.
Merci Patrick.
Merci beaucoup.
Bonne soirée, à très bientôt pour reparler de ces sujets droits. Dans un instant, l'OM au programme. Mais d'abord, laissez-moi vous rappeler que la roue RMC continue jusqu'à demain. Donc vous avez encore une possibilité de vous inscrire ce soir quand vous entendez la célèbre trompette. Ah, elle était censée arriver là, donc voilà, allez là. Donc dès que vous entendez la trompette, vous envoyez roue par SMS au 732-16 si vous voulez gagner des euros demain. Les infos marseillaises concernant le futur coach, c'est tout de suite dans l'after.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui, il recule de trois pas, il sort son téléphone, il se rapproche du QR code, il s'élance et c'est scanné, c'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h38, Daniel Riolo, Florent Gautreau sont là. Plus Roger, auditeur historique de l'after, avec nous en studio ce soir. Marseille, comme promis, pourquoi? Parce que...
Comment pas ça? Tout de suite l'OM.
Pourquoi?
Juste deux secondes.
Pourquoi?
Ah, peut-être pas deux secondes. Petite parenthèse.
Ah.
Je suis sûr qu'il a même pas vu. Oh, il y a le Flo Gautreau qui me regardait berlué. Regarde-le.
Ah, t'as un truc à dire.
Oui.
J'ai aussi un truc à dire. Mais vas-y.
Comment c'est un truc à dire?
Ouais,
une parenthèse.
Une parenthèse.
Toi aussi, t'as
une digression.
Il a parlé.
Qui ça?
Et il m'a dit merci publiquement.
Ouais. L'agneau.
Barcola m'a dit merci publiquement.
Mais il t'a fait une petite leçon de media training. Il t'a dit, ça me motive pour aller plus haut.
Attends, ça m'a totalement échappé.
Mais il n'a pas dit qu'il avait raté sa saison.
Exactement.
Là, c'était dans tout le sport avec Fabien Lévesque.
Exactement.
Ce soir, là
ouais. Ouais.
Ah, donc c'est
il
tout
a
récent.
Il a dit qu'entendre l'agneau, ça l'a fait progresser, ça lui a donné envie de se battre et de me faire taire. C'est pas ça qui est important.
L'agneau ou Bambi?
Il t'a fait taire.
L'agneau. Ce qui est important.
En fait, t'as fini la parenthèse.
Il se trouve qu'en 4 jours, il y a eu justement autour de ça des choses assez importantes qui font que justement on est différent. D'abord, on est différent tout simplement parce que sur le plateau de l'after, il y a Flo qui dit un truc, je dis un truc, on n'est pas d'accord. Et donc, les voix différentes peuvent être entendues.
Parfois, vous êtes d'accord aussi.
Aussi.
Mais ce qui est important de préciser, sujet, c'est que personne ici ne joue un rôle.
Sur le sujet,
la sincérité est
mais
toujours
dimanche soir,
la règle.
Enfin, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ça m'a permis de savoir que le CFC existait encore, parce que je ne le savais pas. Laurent Paganelli,
on sait que ça a toujours existé.
Écoute, c'est plus beaucoup regardé. Suivi en cela par Frédéric Antonetti, qui de façon un peu balourde derrière, faisait oui. Paganelli dit, et c'est tout en fait l'ADN, la pensée absolument différente qui nous anime, nous et eux. Lui, il dit, nous, on est là pour soutenir ce genre de joueurs. On est là pour les soutenir, machin. Donc, je rappelle que sur ce même plateau, Imbula était un phénomène. Dombélé était un joueur de classe mondiale. Serge Aurier, le meilleur arrière-droit du monde. Voilà. Eux, ils disent qu'il faut soutenir les joueurs. Ils disent qu'il faut soutenir Barcola parce que c'est un jeune joueur. Mais c'est pas notre métier. Qu'est-ce que dit Barcola aujourd'hui quand il donne cette interview? Il dit, moi, et c'est pareil, dans tous les médias étrangers sont durs sur les jeunes joueurs. En plus, il n'est pas tout jeune. Pagan ne le sait même pas, mais il n'a pas 18 ans.
Mmh.
Et bon, en même temps, lui, l'information, ça ne le concerne pas. Donc d'abord, il n'est pas tout jeune. Moi, je dis juste un truc. Il rate un match, il est trop jeune. Je continue de penser que si on n'a pas pris Terrier, le prendre, je ne comprends pas comment avec une poignée de merde, on intègre déjà l'équipe de France. Ok, en 86, Papin a intégré l'équipe de France, mais après quand même une saison complète réussie et beaucoup de buts, les temps ont changé. Je trouve qu'on va trop vite. J'ai le droit de penser qu'on va trop vite. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que mine de rien, il est fouetté dans son orgueil quand il entend ça. Quand je dis l'agneau, machin, si cela. Nous, on n'est pas là pour dire il faut le soutenir. Et d'ailleurs, quand Flo le fait, il le fait pas pour le soutenir. Il le fait parce que lui voit des qualités que moi, je vois moins, ou il défend un point de vue. Mais il ne le fait pas pour soutenir. On n'est pas là pour ça. C'est pas notre métier de soutenir. Flo défend son point de vue sur... D'ailleurs, dès l'année dernière, il trouvait que c'est un mec qui avait un truc particulier. Moi, je suis moins d'accord là-dessus. Le gars répond. Je trouve que c'est beaucoup plus constructif dans un débat sur le foot de faire ça que d'être sur un plateau et de tirer les pompes à longueur de temps. Donc, nous ne serons jamais des tireurs de pompes. On peut avoir un avis. On peut parfois se tromper. Rarement, d'ailleurs. Mais on peut parfois se tromper. Et puis, on y va.
C'est vrai que j'ai envoyé Nolan Roux un peu dans le mur. mais je pense pas
à
l'époque Barcola.
En plus, on était un peu d'accord.
Ouais, mais bon.
Mais voilà. Moi, je trouve qu'on va très vite aujourd'hui.
Je suis d'accord avec ça, évidemment, surtout, et y compris sur les joueurs sur lesquels auxquels je ne croyais pas, l'histoire Boateng, dans les deux sens. Et je me suis trompé, je viens de le dire, je viens de citer un exemple aussi. Mais sur Barcola, néanmoins, en dehors de tout ce que j'ai dit, parce que je pense qu'il y avait un truc en plus. Et certains me disaient, mais bah, comment tu peux savoir ? Oui, mais si on ne prend pas le risque de dire vraiment qu'on le croit quand on voit quelque chose de différent, je le dis aussi parce que mentalement, je vois quelque chose de différent. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est ça. C'est est-ce que ce gars sera capable de tout intégrer, d'intégrer la pression ? Regarde, c'est en ce sens que je te dis qu'il fait une saison exceptionnelle. Non pas parce que c'est le meilleur joueur du monde, parce que je t'ai déjà dit, j'ai jamais dit que c'était un crack, mais parce que.
Déjà, si tu dis pas que c'est un crack, ça fait plaisir.
C'est toi qui l'as dit. Moi, j'ai pas dit le mot crack.
Je te dis, c'est pas
un crack. Tu as dit, vous dites que. Bon, ça, on va pas revenir là-dessus. En revanche, ce qui est très intéressant mentalement, et même dans la réponse de ce soir dans tout le sport, c'est que oui, quand tu prends les jets de pression.
Mais là, en l'occurrence, je le trouve intelligent.
Oui, mais c'est pour quand mais il oui, fait ça. Mais je ne cesse de te dire ça. Je veux dire, quand tu prends les jets de pression, quand tu es dans le vestiaire du PSG, quand tu as des stars autour de toi, quand Luis Enrique te fait confiance, quand Luis Enrique, etc. C'est une pression phénoménale. Et le fait qu'il y ait répondu déjà, ne serait-ce que comme ça, pour une première saison à Paris, c'est, je voulais te signifier ça aussi dans ma défense de Barcola.
Ça m'a beaucoup plu.
Pas seulement dans son jeu que je trouve. J'adore, mais je suis en train de voir, par exemple par rapport à Hawaii, que j'avais aussi encensé l'an dernier, ben il y en a un qui ne prend pas le bon chemin, qui n'y arrive pas pour l'instant.
Pour l'instant.
Ouais, peut-être, j'espère pour lui, mais bon, j'ai pas la même sensation, le même feeling quand même. Mais tu vois, et là la réponse, regarde, je l'ai écouté. Hein. En plus, elle est d'un calme total. C'est pas une revanche.
Absolument.
Il dit, bah écoute, j'ai pris ça comme l'occasion de montrer que je pouvais. Il a pas dit, j'ai fermé des bouches.
Non,
il a pas
dit ça. Il a pas parlé. C'est pour ça que je te dis que j'ai beaucoup aimé. Et juste un dernier mot sur cette affaire du CFC. Paganelli, toujours appuyé par la balourdise d'Antonetti, ajoute une donnée sociale qui est détestable. Il ajoute un élément sur l'origine du joueur et tout. Et ça, non seulement c'est nul, c'est dangereux, ça stigmatise les gens. C'est vraiment le truc qu'on ne doit pas faire. Mais bon.
Toi, j'avais un avis de Roger sur Barcola.
Barcola, j'étais comme Daniel au départ. Hein. De Lyon, je me disais, qu'est-ce qu'il vient faire à Paris ?
Et pourtant,
j'ai toujours entendu Florian dire, c'est un bon joueur depuis à Lyon. N'empêche que il a encore raison, comme il disait pour Giroud. Daniel,
on était d'accord, Giroud.
Mais c'est lui qui le disait tout le temps.
Ah, il a dit en premier, mais t'inquiète, oui. Giroud, je l'ai toujours kiffé.
Mais n'empêche que Daniel reconnaît que
j'aurais dû faire comme Daniel en disant. Je vous l'avais dit, mais j'ai pas pris oui, ce truc-là. Oui, j'ai pris le truc du bémol et.
Non, mais c'est Daniel, c'est moi qui pense ça. Daniel, je pense que pour le PSG, des fois, tu es très exigeant. C'est très bien.
C'est normal, non ?
Oui, c'est ton club, oui. Mais Barcola, tu le voulais pas au PSG parce que tu ne le voyais pas au PSG.
Non.
Mais n'empêche que. Il nous montre qu'il peut réussir.
On verra. Pour moi, pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose.
Il a déjà montré des choses.
Il a déjà montré.
Non, mais je te dis pas qu'il va faire 5 ans et qu'il va être Ballon d'Or.
On n'en est pas là. Et d'ailleurs, il va y avoir un élément très important. C'est que l'année prochaine, puisqu'au départ, il arrive un peu comme doublure de Mbappé sur ce poste-là. Après, il y a eu des changements. Qu'est-ce que le club va faire à ce poste-là?
Je pense
qu'il Est-ce qu'ils vont prendre un joueur de renommée mondiale, auquel cas Barcola, qu'est-ce qu'il devient? Un joueur de turnover, un joueur de rotation, ou est-ce qu'il est titulaire au début de la saison? Oui. Même si cette donnée ne veut pas dire grand-chose avec cet entraîneur.
On est d'accord. Ça veut dire que je pense qu'il ne sera pas titulaire, parce qu'avec Luis Enrique, et encore je suis d'accord avec Luis Enrique, être titulaire toute une saison, être sûr qu'on est titulaire, je ne suis pas pour cela.
Pour moi, sans hiérarchie, un club de foot n'avance pas. Il doit y avoir une hiérarchie.
Oui.
Le tous au même niveau, ça n'a marché jamais.
Daniel, on a l'extrait du coup, pour que tout le monde suive bien tout ce qu'on raconte là. L'extrait donc de Barcola, de Bradley Barcola, tout à l'heure dans Tout le Sport sur France Télé. On écoute la question et la réponse.
On se rappelle que durant l'hiver, les critiques ont parfois été violentes. On se rappelle que certains observateurs ont parlé même d'agneau qui n'avait pas le niveau pour la Ligue des Champions. Comment vous avez encaissé tout ça?
Honnêtement, ça peut te faire grandir. Hein. Quand on tombe sur toi comme ça, ça peut te pousser à te donner à fond, à vraiment à montrer que tu n'es pas un agneau, comme j'ai pu l'entendre. Voilà, de montrer que tu vaux mieux que ça, que t'es un bon joueur, que tu sais ce que tu fais, que tu sais ce que tu veux. Et voilà, j'ai pas douté dans ce moment-là, même dans ce moment-là où on a voulu m'enterrer, bah. J'ai toujours continué à croire en moi.
Un bar, un cola, l'addition.
Juste le truc, enterrer, c'est le seul mot qu'il a, mais c'est son intervention est très bonne.
C'est vrai,
j'ai enterré personne. Ton ancien confrère Fabien Lévesque, bravo Fabien Lévesque. Bel échange, j'ai bien aimé cet échange.
Juste un dernier mot pour dire par rapport au débat et ce qu'on disait ici. L'origine du mot débattre, quelqu'un m'a envoyé ça sur Twitter, c'était de donner des arguments pour éviter de se battre, justement. Donc c'est pacifique au bout du compte. D'où le mot débattre.
Bon l'OM.
On peut Fabien Lévesque, très ami avec Fabien Lemoine, l'ancien joueur, il paraît. Et avec le cardinal, bien. Le Brestois. Dans un instant, Marseille.
Et pas avec Julio Iglesias.
Pas mal. Avec Corinne Diacre, peut-être. Et Denis Le Saint, il a Denis Le Saint comme président. Denis Le Saint, bien sûr.
On va faire l'équipe.
Ah, il faudrait faire l'équipe Cato. Ou l'équipe religion dans son ensemble.
Ah, Xavier Pentecôte.
Éric Decroix.
Benjamin Psaume,
bien sûr. Éric Decroix.
On l'a.
Il y a une émulation intellectuelle, Roger, dans cette émission, c'est incroyable.
Les noces de Cana.
C'est remarquable.
Ils se marieront aux noces de Cana.
Avec 18 ans.
Loïc Cana. 18 ans, mais 18 ans que vous m'apprenez beaucoup de choses.
Et ça va continuer. A tout de suite, l'OM au programme.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h50, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Roger toujours avec nous, bien sûr, auditeur de l'After.
Évidemment, ça tombe sur le chat, ils sont trop forts.
Le chat YouTube, il y a quoi ?
Diouf, Léo Lacroix.
Noël Le Graët, qu'on n'a pas donné quand même.
Pourquoi Noël Le Graët ?
Noël.
Ah, dès qu'on dit Noël Le Graët, t'avais la tête qu'il a fait.
C'est encore une fixée. Excellent, Dieu merci Mbokani.
Dieu merci, évidemment. Bien sûr, bravo. Ouais, on pourrait ajouter Bruce Toussaint, mais ça n'a rien à voir. L'OM, on voulait faire le point sur la situation à Marseille. Ça discute aussi avec les journalistes, Daniel. C'est-à-dire que, on le sait, par ailleurs, il y a des.
Je suis sur autre chose, il y a Michael Chrétien qu'on avait oublié, non?
Ah oui, c'est vrai.
De Nancy.
Autre chose, Flo,
oui, pardon. Non, mais parce que je lis le chat en même temps.
Non, mais parce qu'il est braqué.
Non, mais c'est vrai que ça peut durer longtemps.
Bon, qu'est-ce qu'on sait?
Tout le monde sait effectivement qu'en ce moment, la préoccupation première, au-delà même de savoir quels sont les joueurs qui vont partir ou rentrer, c'est le choix de l'entraîneur. La liste, on la connaît. Mais en fait, plus que de l'information, je voulais vous faire participer à une réflexion que j'ai pu avoir avec certaines personnes à Marseille sur autour du nom de l'entraîneur et de ce que doit être l'OM. Puisque j'entends tout le temps, c'était Stéphane l'autre jour qui disait, et qui emploie souvent cette expression, et beaucoup l'emploient, ce que doit être l'OM et qu'est-ce qu'il doit faire. Donc je me suis posé cette question, et effectivement, visiblement le choix vers lequel on s'oriente, puisque moi j'avais défendu il y a 3 jours le pourquoi pas Habib Bey. Je trouvais que mes arguments étaient bons, et je continue de penser que mes arguments sont bons. Mais j'avais envie d'entendre le pourquoi cette piste, elle est quasiment d'office écartée. Fonseca, c'est le choix numéro 1. Conceição, mais il faut qu'il finisse de jouer la Coupe du Portugal ce week-end, là, contre le Sporting.
Mais donc, c'est vrai, donc c'est possible, ça ?
Non, c'est la liste.
Mais je sais, mais
Conceição,
mais
ça parle. Conceição, c'est sur la liste, mais il n'y a pas de...
Non, mais le fait que Conceição puisse venir à l'OM alors qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe...
Et le puisse venir, j'ai pas dit qu'il puisse venir, j'ai dit qu'est-ce qui est dans l'idée des dirigeants. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est dans l'idée, et ton ami m'intéressera là-dessus, sur le modèle OM. Et on a vu aussi l'entraîneur italien Paladino qui plaît beaucoup. Et moi je me suis dit cette histoire de la place de l'OM, parce qu'en regardant l'Atalanta hier, finalement, et si l'OM plutôt que de tenter un modèle Ligue des Champions, pourquoi pas une sorte de modèle Atalanta? Tu vas en Europa League, tu fais un parcours comme a fait l'Atalanta, tu gagnes, t'as un entraîneur qui construit sur la durée, long terme, tu prends ton temps, machin. Pourquoi l'OM assumerait pas d'être dans ce modèle-là? Et c'est là que, peut-être qu'il y a une limite dans mon raisonnement, c'est qu'en fait, selon le pays dans lequel tu es confronté de gré ou de force au modèle et à ton histoire. Et l'OM ne peut pas suivre ce modèle-là. Ils sont obligés de se dire, nous, on est un club Ligue des Champions. Et encore plus à partir du moment où il y a maintenant 4 équipes. Donc, ils sont en train... Mais c'est quelque chose, je sais pas, ça vous paraît peut-être évident, mais ça l'a pas été tout de suite quand on me l'a expliqué. dire que tu ne peux pas dire quand. Au niveau européen, l'OM a un peu disparu. Dire qu'ils veulent jouer la Ligue des Champions, faire un truc en Ligue des Champions, ça paraît complètement. Tu vois, tu dis mais où ils vont, ils rêvent. Depuis combien de temps ils ont pas fait un truc, ils gagnent pas un match quand ils y sont ou de façon anecdotique. Mais ils sont obligés parce que c'est par rapport au championnat de France et aux concurrents du championnat de France de se dire, nous on est obligés d'aller en Ligue des Champions. Et à ce titre, ça nous oblige à être plus ambitieux. Ça nous oblige à viser un entraîneur qui a un profil Ligue des Champions. Et d'adapter une communication par rapport à ça. Mais tout ça, c'est très dangereux, mine de rien. Parce que ça donne ce qu'ils ont fait l'été dernier. De vouloir reconstruire, de prendre l'entraîneur, de miser sur un projet.
C'est dangereux, mais ils n'ont pas le choix. Tu vois l'OM arriver aujourd'hui devant les supporters en disant, écoutez, réduction de la voilure, on ne peut plus être européen.
Non, pas européen.
Donc, on va prendre...
C'est un modèle plus petit. Mais en fait, tu as raison. Et c'est exactement ce qu'on dit. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai insisté, j'ai mis, attends, excusez-moi, en quoi, j'ai refait ce que j'ai fait il y a trois jours, la liste des entraîneurs sortis de nulle part qui réussissent, elle est aussi longue que celle avec des garanties qui se plantent. Je dis, en quoi confier le truc à Habib Bey qui va venir, alors qu'il a méga envie de venir, qui dit qu'il va pas y arriver? Pour moi, il n'y a aucune contre-indication. Je dis, ouais, mais par rapport à la pression du public, par rapport à ce qu'on attend, de ce que doit être l'OM, d'un entraîneur avec des garanties, avec un nom, c'est trop tôt. Moi, franchement, moi, j'arrive pas à être totalement convaincu par cette histoire-là. Mais les contraintes dont parlait Flo, ou dont tu parlais, je sais plus.
Parce que t'as le dénommé Paladino, là, excuse-moi, mais en quoi il a plus de garanties qu'Habib Bey?
Eh ben, tout ça, c'est une sorte de com. C'est, il arrive d'Italie, il a des principes de jeu, il a un discours, il a un machin et tout. Et ça tourne beaucoup autour de la com. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, d'abord, c'est pas leur choix numéro un. Et puis, moi, il y a un autre truc qui me perturbe. Si je dis, mais Fonseca, est-ce que lui, c'est son choix numéro un à l'OM? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de gênant, finalement, à ce que toi, ce soit ton choix numéro un, mais que lui, il attende la réponse de Milan pour te dire éventuellement oui? Moi, ça me gêne un peu. Moi, je trouve que c'est un petit peu gênant. Alors après, on peut dire, ouais, mais, il va offrir plus de garanties parce que il est important et une fois qu'il y sera, il bossera correctement. Bon, ok, très bien. Et puis encore un mot sur ce projet Ligue des Champions qui d'ailleurs devait démarrer l'été dernier mais qui a planté puisque cette année ils seront dans zéro Coupe d'Europe et ça c'est un vrai problème. C'est que l'OM veut partir sur 3 ans et en fait on me dit. En fait, vous ne mesurez pas à quel point la vie d'un club qui va 3 ans de suite en Ligue des Champions change complètement. Tu changes toute ta vie et on parle de business hein, là. On parle de billetterie, de produits dérivés, de l'argent qui rentre des télés, de l'argent qui rentre de la compétition. En fait, ça change totalement le destin d'un club. C'est pour ça qu'on se bat et que beaucoup de clubs se battent pour aller en Ligue des Champions. Quitte à ce qu'on sache que finalement, il n'y a qu'une poignée d'équipes qui peuvent la gagner. Les autres y vont, en fait, comme des faire-valoir. On t'offre une petite aventure. Alors nous, pendant ce temps-là, on kiffe sur les aventures Europa League. On kiffe de voir la finale d'hier soir. On adore voir l'Atalanta. Mais en fait, il y a des clubs, pour l'Atalanta, ils sont en fait dans cette dimension-là. C'est leur modèle, l'Europa League. Eux, ils peuvent le faire, ce délire-là. Un club comme Marseille ne peut pas le faire. Parce que eux, par rapport à l'exigence, par rapport à la pression, par rapport à l'environnement culturel, médiatique, eux, ils se doivent de dire, nous, il faut qu'on aille 3 ans de suite en Ligue des Champions parce que ça va changer notre vie. J'ai trouvé ce débat très intéressant et ces contraintes pour un dirigeant dans un tel club assez fascinantes à dénouer finalement parce que c'est des contraintes pesantes.
Comment tu te positionnes là-dessus?
Alors déjà, sur la Ligue 1, effectivement, il y a un truc qui relève de la quadrature du cercle, sauf pour le PSG, en gros. C'est ce que tu dis sur la Ligue des Champions. Parce qu'en fait, c'est une évidence, mais il faut la rappeler. C'est-à-dire que tout le monde veut y aller, en gros, en sachant que tu peux quasiment rien y faire. Oui. Donc déjà, ça, c'est un truc où, en gros, tu vas pour... Je caricature, hein, parce que pour les supporters, c'est important, j'entends bien. Mais je veux dire, tu vas pour prendre l'oseille.
Oui.
Parce qu'en gros, derrière, tu sais que tu vas pas faire d'exploit. Et tu te dis d'ailleurs, une 3e place pour certains clubs, si on est rebalancé en Europa League, c'est pas très grave. Parce que là, on a et le business, on a le beurre, et on a l'argent du beurre, et une éventuelle épopée, entre guillemets. Mais déjà, on est dans un championnat petit, dans lequel, effectivement, à part le PSG qui peut viser la victoire finale, c'est pas le cas pour les autres. Donc déjà, c'est très très compliqué d'aller là-dessus. Sur l'OM, là où t'as raison. D'abord, et pourquoi ils disent Ligue des Champions, t'as raison. Le statut, ils peuvent pas dire, surtout maintenant qu'il y a quatre qualifiés, mais ils peuvent pas dire non, on va faire autre chose. Enfin, notre ouais, Nice peut faire ça. Ouais. Nice a fait ça. Ils ont fait l'inverse. Ils sont plantés en disant on veut titiller le PSG, ils sont allés trop vite, trop loin. Mais là, ils ont redimensionné. Ils vont peut-être encore redimensionner. Mais Nice peut faire sans que ça fasse un tollé à Nice, dire au fait non, on va plutôt faire cinquième, on va essayer de bien jouer et de remplir le stade. Donc ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais après, le piège, c'est un piège macroniste, c'est pour Longoria, c'est le en même temps. C'est-à-dire que, en fait, il veut à la fois faire la Ligue des Champions, parce qu'il a compris ça, y compris économiquement, bien sûr.
La Ligue des Champions, il veut la faire trois ans de suite, parce que ça change tout dans la vie.
Ok, 3 ans de suite, mais ça, c'est de l'économie, on est d'accord. Et comme pour les supporters, tu peux pas tenir de discours, pour l'instant, c'est pas compliqué. Tu dis, bah ouais, de toute façon, on n'a pas le choix, on doit y aller. Mais, comme c'est un mec intelligent et qui aime le foot, il dit en même temps, je vais quand même mettre des mecs qui vont imprimer une marque football. Sampaoli, Tudor. Alors après, on peut dire qu'il s'est planté. Cette saison, elle est très particulière. Parce que sinon, il pourrait très bien aller chercher cash un mec, on va dire, un petit peu moins flamboyant en termes de jeu, mais en se disant, bah, quitte à faire efficace pour faire Ligue des Champions, le jeu, on va faire une petite croix dessus. Non, il se dit, moi, je suis Longoria, je connais bien le foot, j'adore ça, je vais imprimer quelque chose. Et là, tu remplis le stade, parce que c'est ça la réalité aussi. Quand t'as eu Tudor, quand t'as eu Sampaoli, et même maintenant d'ailleurs encore, mais pour d'autres raisons, parce qu'il y a une sorte d'élan, tu remplis le stade, on parle de jeu, on parle de quelque chose de particulier, on aime ou on n'aime pas, mais il se passe quelque chose. Mais ça, moi, je pense qu'en gros, tu ne peux pas y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu arrives au truc compliqué. Le projet Tudor, Sampaoli, on remplit le stade, on imprime un projet sportif avec ton projet Europa League, yes. Je veux dire par là, ouais, ça, c'est dimensionné. Le projet Tudor, Sampaoli, machin, et d'ailleurs, ça a explosé. C'est bien pendant quelques mois, mais la réalité économique, la réalité du très haut niveau, la réalité de la pérennité sur 3 ans, ça ne marche pas. Donc, ce qui est terrible, c'est que moi, je ne dis pas du tout. C'est que du business, c'est que des transferts, c'est que des machins. Non, il a vraiment essayé d'apporter des vrais coachs, entre guillemets, pour aller quand même en Ligue des Champions.
Et là, mais il en veut un.
Il en veut un vrai coach, ok. Donc, on va recroire au projet, au machin. Sauf que, honnêtement, aujourd'hui, l'OM, y compris dans en termes d'effectifs, parce que là, on en est à peine à choisir le coach.
Il va reconstruire l'effectif.
Ah ouais, mais ouais, je dis
mais
juste que...
Mais l'OM ne peut pas viser autre chose, c'est des contraintes.
Oui, mais peut pas viser autre chose. En ne pouvant pas viser autre chose, tu t'interdis peut-être d'avoir au moins un truc qui se pérenne sur 3 ans, qui dure. C'est ça qu'il n'a pas réussi à faire, et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à le faire. C'est pour ça que, ok... Il va prendre Fonseca, ils vont reconstruire, ce sera sans doute mieux. Ils vont peut-être
il va
se
pas
qualifier.
Prendre Fonseca, on est très loin de ça.
Non, mais si, par exemple, tu fais ce scénario, tu te dis, OK, pourquoi pas.
Moi, j'ai dit, c'est leur choix numéro
beaucoup.
Un, mais pas.
Non, mais j'aime beaucoup. Mais après, derrière, quand Fonseca, contrairement à Lille, puis pour prendre cet exemple-là, ou contrairement à l'Atalanta.
On conclut, Flo.
Ouais, quand Fonseca va se heurter, justement, au fait de, ah, mais attends, t'es que cinquième. Mais attends, oui, ça joue pas mal, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas. Mais non, c'est ça qui va pas marcher. Alors que quand il est à Lille, t'as vu, là, il perd la troisième place. Quand même, c'est quand même gros là sur cette dernière journée.
Oui, bien sûr,
bon bah on lui dit pas faute professionnelle et voilà, c'est tolérable, on va dire, à Lille. C'est pour ça que toute bonne idée, même celle-là, et toute volonté d'aller très haut en Ligue des Champions, elle est louable, sauf que à Marseille, à mon avis, c'est très très compliqué et qu'effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Je dis pas que c'est tenable, mais un discours Ligue Europa avec un vrai bon coach et un vrai projet sport qui remplisse le stade, ça me paraîtrait pas du tout déshonorant.
Dans un instant, les dernières nouvelles avant la finale de la Coupe de France avec Mbappé, bah, qui est là, dans le groupe. Eh oui,
on vous explique tout. Donc là, il va arriver, il va être en pleine fraîcheur.
On vous explique tout dans quelques instants, tout de suite dans l'after.